Je vous propose, Astrid, ce que je vous propose, oui. Astrid, on va rester ensemble. On a juste, oui. évidemment, les informations de minuit, oui. le journal de minuit avec oui. Maëlle Hassani. Et je vous propose qu'on se retrouve. Vous allez nous raconter, donc, effectivement, la violence et la peur que vous aviez de cet homme, des oui. conditions dans lesquelles vous avez engagé ce divorce et comment ce divorce a pu finalement se dérouler. On se retrouve tout de suite.
Et tout est bien, qui finit bien pour la nouvelle année.
Et bien alors justement, on va en parler. Restez avec nous, Astrid, s'il vous plaît. Il est minuit sur Europe 1 et on retrouve pour le journal Maëlle Hassani. Rebonsoir Maëlle.
Bonsoir Roland, bonsoir à tous. Des avions militaires en route pour le Groenland. Ces appareils sont envoyés par le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord afin de participer à des activités prévues de longue date en coopération avec les autorités danoises et celles du territoire arctique. Mais ce déploiement pose tout de même certaines questions à l'heure où les États-Unis menacent d'annexer le Groenland sans écarter l'option militaire. Pour forcer les Européens à lâcher l'île, Donald Trump menace toujours d'imposer des surtaxes douanières aux 8 pays ayant envoyé des troupes sur place la semaine dernière. Parmi eux, la France et l'Allemagne. La réponse du vieux continent sera débattue jeudi soir lors d'un sommet européen extraordinaire. Des mesures de rétorsion seraient très mal avisées, prévient ce lundi soir le secrétaire au Trésor américain. Sébastien Lecornu va utiliser pour la première fois le 49-3 ce mardi à l'Assemblée sur la partie recettes du budget de l'État. Une décision actée tout à l'heure en Conseil des ministres. Un passage en force décidé avec regret et amertume, affirme le Premier ministre qui reconnaît, je cite, un semi-échec. LFI et le RN déposent des motions de censure. Le Parti socialiste ne devrait pas les voter. Pas de chute du gouvernement à prévoir. Les sénateurs se penchent dès ce mardi sur les textes sur la fin de vie. Le premier porte sur le développement des soins palliatifs. Le second sur la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Il y a 8 mois, les députés ont approuvé le principe d'une aide à mourir pour les malades en phase avancée ou terminale. La Chambre haute, dominée par la droite et le centre devraient instaurer davantage de garde-fous. Un homme est décédé ce lundi dans une avalanche dans les Alpes. Ce trentenaire faisait partie d'un groupe de 6 skieurs qui évoluaient hors piste dans le couloir du Lavancher à Val d'Isère en Savoie. Les faits se sont produits en fin d'après-midi. Plusieurs Colombiens lourdement armés interpellés la nuit dernière à Lyon, juste avant de commettre un règlement de compte sur fond de narcotrafic. 4 suspects se trouvaient à bord d'une voiture volée et semblaient sur le point de passer à l'acte. Le 5e homme retrouvé dans un appartement, probablement utilisé comme une planque. Le bilan s'alourdit en Espagne. Au moins 40 personnes sont décédées dimanche soir dans une collision entre 2 trains à grande vitesse en Andalousie. D'autres victimes pourraient être recensées dans les 48 prochaines heures, selon le président de la région. Les causes de l'accident restent inconnues. 3 jours de deuil national décrétés dans le pays. Une icône de la haute couture vient de s'éteindre. Le styliste Valentino est mort ce lundi à l'âge de 93 ans. Il restera dans l'histoire notamment comme le premier couturier italien à ouvrir une boutique à New York, c'était en 1970. Et puis l'équipe de France masculine de handball finit le tour préliminaire en tête de son groupe à l'Euro. Les Bleus se sont imposés ce lundi soir 38 à 34 à Oslo face à la Norvège. Les hommes de Guillaume Gilles sont attendus désormais au Danemark pour le tour principal dès jeudi. Vous écoutez Europe 1, il est minuit 3 et vous retrouvez la Libre Antenne avec Roland Pérez jusqu'à 1h.
Ah, ce grand couturier Valentino Garavani, c'était son nom. Je pensais à lui pour la robe de mariée de votre fille.
Vous avez beaucoup d'ambition.
Bah oui, non mais un modèle de Valentino, elle mériterait, non ?
Elle mériterait. Je vais devoir faire beaucoup de journaux et de flash, mais pour pouvoir la financer. Mais oui.
Ah bah peut-être qu'elle peut la financer elle-même. Vous avez même pas dit ce qu'elle faisait dans la vie.
Ah, elle fait un très beau métier que vous connaissez bien.
On n'en saura pas plus. Vous m'aviez promis qu'après une petite galette des rois, on en saurait un peu plus.
J'ai répondu à votre question.
Il y a des intentions qui se profilent à l'horizon. On a des dates de fiançailles.
Oh,
des
dates peut-être pas. Il y a des idées. Des intentions, mais des dates.
Je pourrais vous aider à choisir la bague. Non, ça ne me regarde pas.
Ah si, je suis toujours très preneur de vos conseils, vous le savez.
Bon, d'accord. Allez, je vous laisse filer, remanger une petite part de galette des rois.
Ah non, vous savez que c'est très calorique.
Bah oui, mais bon, ça va.
Ça commence
avec,
à être beaucoup.
Avec votre jeunesse, vous pouvez. Et puis là, vous allez dormir. Tout sera oublié demain. On se retrouve demain.
À demain, Roland.
À demain, cher Maël.
Europe 1, 22h30, 1h.
La Libre Antenne.
Roland Pérez.
Avant de retrouver Astrid qui va continuer à nous raconter sa relation tumultueuse avec celui qui est devenu enfin son ex-mari, et donc le divorce est la bonne nouvelle de la rentrée pour Astrid. Je vous rappelle que Thomas Hill, Anissa Hadadi et toute l'équipe de Culture Média vous donnent rendez-vous de 10h à 11h30 sur Europe 1, toute l'actualité culturelle et médiatique avec ceux qui la font. Et demain, les invités sont Lara Fabian, à l'occasion de la sortie de son nouveau single « Je veux danser » et puis de sa tournée dans toute la France à partir du 9 mars. Culture Média, de 10h à 11h30, tous les jours sur Europe 1, la radio libre. N'oubliez pas, demain, c'est Lara Fabian. Vous êtes toujours avec nous, Astrid.
Bien sûr.
Alors, on rappelle, hein, Astrid, que vous avez été mariée pendant un certain nombre d'années, on va dire en deux temps quasiment, puisque les premières années ont été telles que vous êtes dit que c'était pas possible de rester avec cet homme. Vous l'avez donc quitté, vous vous êtes quitté, et puis deux ans plus tard, il est revenu à la charge. Vous aviez été un peu émue puisqu'il avait fait un accident cardiaque, il avait eu quelques soucis, quelques problèmes, donc vous aviez été émue de sa situation. Et puis vous pensiez encore avoir des sentiments pour lui, donc vous avez repris avec lui, et puis rebelote, les années d'après ont montré que ça n'était pas possible du tout, et donc vous avez décidé de divorcer, mais divorcer avec un homme qui était tout de même violent, et au point même qu'à la première audience avec votre avocat a pris peur de cette violence contenue que vous ressentiez et qu'il a ressenti lui-même en faisant connaissance avec celui qui est devenu votre ex-mari. Nous en étions là.
Voilà. Alors, vous me demandez combien de temps j'étais restée. Donc, mariée. Je me suis mariée en juin 2010. Et en janvier 2013, je t'ai demandé le divorce. On est passé le 29 avril. Et donc là, il a refusé. Donc, de temps en temps...
Vous passiez devant... Ah oui, là, il a refusé, c'est-à-dire qu'à l'audience, il a refusé le divorce.
Oui, mais ce qui est incroyable, c'est que... Enfin, je ne vais pas vous raconter comment se passe un...
Oui, d'accord, mais lui il n'était pas avec son avocat, lui ?
Il n'en avait pas pris.
Il n'en avait pas pris, d'accord. Et donc, il a dit, quand il est passé seul, il a dit au magistrat qu'il ne voulait pas divorcer.
Alors, il a dit qu'il voulait divorcer. Ah. Parce qu'il était tout seul avec... Et quand même, la juge m'a dit, quand moi j'étais toute seule, puisqu'elle l'avait vu avant, pourquoi vous vous êtes mariée ?
Bah oui.
Mmh. Quand même. je l'ai aimé un temps quand même. Et quand on est revenu les deux avec mon avocat, elle fait bonne nouvelle, monsieur accepte le divorce. Et là, de toute sa violence, il fait, mais je ne divorcerai pas. Donc là...
Ah oui, coup de théâtre dans
ah
l'audience,
oui, oui.
À l'audience,
théâtre,
d'accord.
Oui, ouais. Mais voilà. Et donc, elle dit, mais quel est le problème ? Il fait, mais... Alors que c'était son troisième divorce, on ne m'a pas dit qu'il fallait... on ne m'a pas averti à temps, je n'ai pas d'avocat pour me défendre. Et la juge lui dit, mais vous n'avez pas à vous défendre, on vous accuse de rien. Madame veut juste reprendre sa liberté. Oui, mais quand même, je ne divorcerai pas. Et puis là, bien sûr, rien fait du tout. Donc, de temps en temps, il me rappelait, croyant qu'on allait une énième fois se remettre ensemble. Et puis ensuite, il y a certainement de bonnes langues, comme j'avais un commerce à l'époque, on devait dire que j'avais rencontré quelqu'un d'autre. Enfin bref.
Vous aviez quel âge, Astrid, à l'époque ?
Une petite cinquantaine d'années.
Vous n'aviez pas d'enfant avec lui, hein, Astrid ?
Ah non, non, non. Mais alors, ce qu'il y a, c'est que je me suis mariée, mais... Tant que mon j'ai trois fils, hein. Tant que mon dernier fils, c'était mon prétexte, hein, j'avoue, n'avait pas pris son envol, j'avais dit, et lui, il avait aussi des enfants de son côté, chacun chez soi, et puis après, on vivra pour nous.
Ah, vous aviez eu la bonne idée de ne pas cohabiter, donc vous aviez déjà votre appartement.
Et de faire un contrat de mariage.
Très bien.
Il voulait aussi que je paye toutes ses dettes.
Ah oui, d'accord.
Tant qu'à faire, hein. Comme il m'a dit, j'ai tout perdu, j'ai plus rien à perdre. Voilà. Et donc...
C'est pas mal comme formule, j'ai tout perdu, j'ai rien à perdre.
Ben, non, mais c'est ce qu'il a fait sur la route, quand il a fait croire qu'il voulait rentrer dans une autre voiture pour nous tuer.
Ah oui, c'est ça, dit, on en était là, quand
en
vous êtes...
Perdant,
quand vous avez
tout perdu, j'ai plus rien à perdre.
Oui, c'est ça. Donc en allant pour le divorce, en allant à l'audience, et c'est là où vous nous disiez que il a tenté de percuter une voiture.
Ah non, non, ça c'était bien avant, j'étais plus du tout avec lui pour le divorce, puisque je lui ai faxé la convocation. L'avocat m'avait dit surtout, vous
non, mais la voiture, quand vous étiez en voiture avec lui, vous dites.
C'était avant.
C'était avant, oui, c'est ça. C'était avant que vous. Oui. C'était le jour où vous rendiez tous les deux. Vous m'avez dit que vous rendiez tous les deux à l'audience.
Non, d'accord. J'étais plus avec lui. Parce que. Quand il a fait ça, c'est quand je lui ai dit on va arrêter, je veux divorcer.
D'accord.
Vu son comportement, après l'avocat m'a dit vous n'en parlez plus. Et je lui ai faxé à son bureau la convocation. Donc là, ça l'a mis dans un état pas possible. Et. Donc, les années ont passé, et à un moment, j'ai plus de nouvelles. J'étais tranquille, j'ai dit, bah, tant pis, de toute façon,
donc,
ça ne change
plus
pas grand-chose.
Plus de nouvelles parce que la procédure, finalement, avait capoté, il ne voulait pas divorcer.
Et puis, lui, c'était calmé aussi, quoi, voilà. Donc,
calmé, mais
je vivais
vous,
ma vie.
C'est ça, vous ne le voyez plus, ok.
Non, voilà. Et donc...
Vous ne viviez pas dans la même ville, Astrid, hein?
Non. Okay. On était dans la même région, puisqu'on est dans le sud, mais non. Lui était dans le Haut-Var et moi je suis dans les Bouches-du-Rhône.
D'accord.
Donc, les années passent. Donc, en juillet 24, le Messenger, après. Une lettre recommandée où il avait tout stabiloté en cas de refus de divorce. Je me suis pincée, j'ai dit, je rêve ou quoi, là? Et ensuite...
Il a réengagé une action là, c'est lui qui a réengagé une action en divorce?
La troisième fois, c'est là où je vous ai appelé, je reçois une lettre d'un avocat qui me dit, veuillez communiquer ce dossier à votre avocat en vue d'un divorce. Voilà. Et c'est là où je vous avais appelé, parce que j'étais un peu paumée, et parce que j'avais l'impression qu'on me... C'était pas...
À tous ceux qui avaient déjà de la barbe au collège.
Excusez-moi, monsieur. Ah, t'es en sixième aussi pardon.
À ceux qui doivent attendre 3 mois pour avoir une barbe de 3 jours. Et à ceux qui se rasent tous les matins en espérant que ça pousse plus vite. Là où il y a du poil, il y a de l'espoir.
Intermarché offre 90% en avantage carte sur le rasoir 360 One Blade plus 3 sabots Philips, soit 2,99€ avantage carte déduit. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 25 janvier, 29,99€ prix payé en caisse, réservé aux porteurs de la carte. Modalité, magasin participant sur intermarché.com.
Donc, lui, c'est Justine, j'ai un prix pour vous. Ben, je dis, écoutez, je ne suis pas là, mettez-le en boîte aux lettres. Et c'était la convocation pour divorcer le 4 septembre 2025. Vous voyez, plus de 9 mois. Convoqué à 8 heures à Marseille, j'ai que ça à faire. Donc, j'ai dit, je ne vais pas.
Alors que vous vouliez divorcer depuis le départ, là, le fait que c'est lui qui ait pris les rênes et qui vous demande absolument tout et n'importe quoi, vous vous êtes dit, je n'ai pas le courage de l'affronter, je ne vais pas recommencer dans cette mascarade, et donc vous décidez de faire la politique de l'autruche.
Complètement. Donc les mois passent, je me dis, il ne se passe rien. Et là, ce matin, un petit jeune homme, qui m'appelle encore au nom que je n'ai jamais porté. Alors, il me fait madame Attal, je dis, si on veut. Il me dit, j'ai un prix pour vous. Je dis, écoutez, montez, il n'y a pas de souci. Et, qu'est-ce qu'il y avait dans l'enveloppe? Je lui dis d'ailleurs au jeune homme, je lui dis, excusez-moi, j'étais un peu interloquée par le nom, parce que ce n'est pas un bon souvenir. Il fait, oui, je comprends, ma pauvre. Et donc, ça a été décidé, mais si vous voulez, donc il a été débouté de toutes ses demandes.
Alors, c'est un jugement de divorce par défaut, alors finalement, enfin, parce que vous n'êtes pas présenté.
Même pas. Parce qu'il y a eu des témoins qui ont témoigné comme quoi on n'habitait pas ensemble, qui ne m'avaient même jamais vu.
C'est une séparation de fait, en fait, c'est pour rupture de la vie commune. Enfin, ça ne s'appelle plus comme ça, c'est altération de lien conjugal, je crois que ça s'appelle.
Et donc, je suis divorcée pour eux depuis décembre 24, depuis sa demande.
Très bien.
Et par contre, parce que ce qu'il y a, c'est que moi, comme je ne me connais pas, je dis, mais pourquoi il veut annuler ce mariage? pour la pension de réversion.
Ah oui, vous avez raison.
Parce que moi, je n'ai pas pensé à tout ça.
La pension de réversion, c'est une pension que touchent les veuves ou même les ex-femmes. Quand l'un des conjoints, enfin, elle se perçoit des deux côtés d'ailleurs, quand l'un des conjoints décède, même si vous avez divorcé, vous percevez au prorata du nombre d'années passées avec le conjoint, vous percevez une partie de sa pension de retraite. C'est ce qu'on appelle la pension de réversion.
C'est certainement pour ça qu'il voulait annuler.
Ben oui, vous avez raison. Et il a été débouté de cela.
Oui, oui. Et ce qu'il y a, c'est que par rapport aux deux autres femmes, j'ai plus d'années de mariage que les deux autres. Pauvre malheureuse.
Parce que vous étiez la dernière, vous.
Ah ben, peut-être pas, non.
Enfin, à ce jour, vous étiez la dernière.
Oui, voilà.
D'accord. Et donc aujourd'hui, c'est la liberté.
Ah là, non, je l'étais déjà libre.
Mais c'est la liberté, voilà. On va dire, administrative, voilà. Judiciaire, juridique.
Voilà. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est finito.
Ah terminé. Oui, c'est fini, oui.
Voilà. Parce que de temps en temps, quand même, je me disais... Hein,
vous êtes heureuse, Astrid, là.
Ah oui, je suis soulagée.
Et vous êtes toujours avec votre amie?
Oui, alors ce qui est très drôle, c'est qu'hier, parce que lui, il vit aux Antilles une partie du temps, puisqu'il est skipper, il dit « t'as pas de nouvelles ?» J'ai dit non. J'ai dit « t'as dû sentir, t'as dû avoir des ondes. »
Et vous l'avez annoncé à vos enfants? Vous l'avez annoncé à tout le monde?
À mon dernier fils, parce que je l'ai eu, mais je ne veux pas les embêter avec ça. Donc, quand je vais les voir, puisque il y en a un que je vais aller voir en Nouvelle-Zélande là, dans une semaine, puisque j'ai une petite fille qui est née.
Ah, bravo!
Voilà, je ne connais pas encore. Et donc, je leur dirai, puisqu'on va tous se retrouver les trois là-bas, donc je leur dirai, voilà.
Vous allez apporter le papier salvateur qui vous a sauvé.
Ils croiront, j'ai pas besoin de papier, mais voilà.
Bah écoutez, je suis content qu'Astrid, la vie s'est chargée elle-même de vous apporter cette bonne nouvelle sans que vous n'ayez rien à faire. Et puis, le juge a dû comprendre avec qui elle avait affaire en le déboutant de toutes ses demandes.
Oui, je pense aussi.
Hein, je pense que... bah écoutez, merci en tout cas de nous avoir tenu informés, Astrid. Merci beaucoup.
Pour le pire et le meilleur.
Mais oui, voilà. Maintenant, c'est le meilleur pour vous. Et on est heureux de sentir aussi votre bonheur de femme accomplie, de mère, de grand-mère et puis d'amoureuse.
Oui, tout à fait.
Bon, merci infiniment, Astrid. À très bientôt.
Bonne soirée.
Merci à vous aussi.
S'invente un détour, c'est notre façon de fuir. Et on sait si bien comment faire le sourd pour justifier nos délires. Est-ce qu'on est prêt pour livrer décision et remplir enfin notre mission? Avec le temps, on s'entend. on y pense, le monde à redécouvrir, toutes ces richesses qu'on a là devant soi, ont tout pour nous faire sourire. On est tous des citoyens de la terre, et ensemble on pourrait réussir. En choisissant notre sort, on peut changer l'accord.
Meilleur lendemain sur Europe 1, vous avez reconnu la voix, la jolie voix de Garou. Que vous traversiez ce soir, quoi que vous traversiez ce soir, rappelez-nous une chose, rappelez-vous une chose, vous n'êtes pas seul, il y a ici des voix, des oreilles, des cœurs prêts à entendre. Parlez-nous d'amour, de famille, de projet, de rupture, de renaissance. Votre histoire mérite d'être racontée. 01 80 20 39 21. Le standard est ouvert jusqu'à 1h du matin. Florian et Julia sont toujours là. Ils attendent vos appels. Et puis, vous avez toujours les messages que vous pouvez nous envoyer au 739 21. Vous êtes très silencieux ce soir sur les messages. Soit vous écoutez, soit vous dormez déjà. Je ne comprends pas. Soit vous n'avez pas envie peut-être de réagir. En tout cas, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire au 739-21 en faisant précéder vos messages du mot « nuit ». Bonsoir Perrine.
Bonsoir Roland.
Merci. Bonsoir. Merci d'avoir joint la Libre Antenne. Vous souhaitiez nous confier ce que vous traversez actuellement, les difficultés, d'abord votre vie très très fusionnelle que vous avez avec vos enfants, et puis votre fille aujourd'hui qui a pris le large, qui à la suite de difficultés avec le son papa, avec votre conjoint, elle a coupé totalement les ponts alors que vous avez éprouvé le plus grand des malheurs. Vous avez perdu un enfant.
Oui.
Racontez-nous, Perrine, vous avez alors donc déjà, vous avez eu deux enfants.
Oui, j'ai eu deux enfants et 15 ans de bonheur. Vraiment un bonheur. J'étais très fusionnelle avec mon fils et je m'entendais très bien aussi avec ma fille, mais plus fusionnelle avec mon fils, mais c'est comment ils sont nés. Ma fille, il y a eu des petits soucis à sa naissance. Elle a été pendant un mois à l'hôpital. Et puis, j'étais plus toute seule à cette époque. Hein.
Ah, vous n'étiez pas avec mon papa. Mari, d'accord, oui.
Mon mari était à l'armée quand ma fille est née.
D'accord.
Voilà. Nous sommes mariés jeunes. Je voulais pratiquement tout de suite des enfants parce que moi, mes parents, ils m'ont eu, ils étaient très âgés. Voilà. Ma maman avait 45 ans quand elle m'a eu, mon papa 60 ans.
Et vous aviez quel âge, ou alors quand vous avez eu votre première fille?
J'avais 20 ans. J'avais 20 ans. Voilà.
Ouais.
Mais j'étais ravie de l'avoir. Ce qu'il y a, c'est qu'elle a eu des problèmes de santé et elle a été hospitalisée un mois. Donc quand c'était dur, bien sûr, et puis après ça s'est arrangé, voilà. Et j'ai eu un deuxième enfant parce que je voulais au moins deux enfants, mais qu'ils aient pas trop d'espace. Ils ont 26 mois.
Ah oui, c'est bien. D'accord.
Voilà, donc ils ont beaucoup joué ensemble. Ils étaient très liés, beaucoup. Voilà.
Et avec le papa à l'époque, le papa était militaire, vous dites, quand vous avez cet enfant.
Quand j'attendais ma fille, oui.
Voilà. Et ensuite, avec le papa et la vie de famille, ça s'est bien passé?
Très bien. On a eu 15 ans de bonheur. Oui, vraiment 15 ans de bonheur. Bon, ma fille, elle a porté un corset. Elle avait une scoliose très grave. À l'époque, fallait porter des corsets qui étaient... Elle est née en 68. Alors donc, à l'âge de 10 ans, elle a porté un corset. Elle avait sa colonne vertébrale qui était très abîmée. Il aurait fallu presque l'opérer, mais le médecin n'était pas... Après, c'était une rigidité à vie, donc on nous avait déconseillé. Donc, pendant 10 ans, elle a porté un corset, on a fait plein d'examens, mais ça se passait très bien. Elle était très forte, ma fille. Elle a jamais pleuré. Elle a vraiment supporté tout ce qui lui a été imposé. Vraiment.
Donc, pendant 15 ans, vous avez eu cette vie familiale épanouie. Et oui. Qu'est-ce qui s'est passé après ces 15 ans? Donc vos enfants avaient voilà. 15 et 17 ans?
Oui, voilà. Et à 17 ans, bon, comme ça, j'ai dit à mon mari, tu sais, notre vie, elle va changer. Nos enfants grandissent. Mon fils avait 15 ans et ma fille 17 ans. Et j'ai dit à mon mari, tu sais, notre vie, elle va changer maintenant. Et puis, je voulais discuter un petit peu, lui dire qu'ils allaient peut-être rencontrer des copains, des choses comme ça. Mais mon mari ne voyait pas tellement les choses comme ça. Il me dit, mais non, t'inquiète pas, ils sont tellement bien avec nous. Bon. Et puis, ma fille, elle a fait une rencontre avec un garçon. Malheureusement, c'était un skinhead. Mmh. Voilà. Mmh. Et elle a passé son bac. Elle a réussi. Et le lendemain, elle est partie.
Ah, elle a abandonné le foyer. Elle est partie de chez vous.
Voilà. Voilà.
Elle avait 18 ans.
Elle avait 19, parce qu'en fait, la première année qu'elle a voulu passer, qu'elle est rentrée au lycée, elle m'a dit, mais maman, il y a une matière qui m'intéresse. Mais elle ne pouvait pas continuer à aller jusqu'au bac comme ça. Il a fallu qu'elle redouble. Alors, c'est quand on rentre au lycée, c'est la seconde. Hein. Il a fallu qu'elle redouble. On a eu du mal parce qu'elle était très bonne élève. Et elle voulait tout faire physique, chimie. Ça lui avait plu. Cette matière lui avait plu. Alors, je lui ai dit, écoute, on va aller voir tes professeurs. Je vais leur expliquer. Et on a réussi à la faire redoubler. Alors, ce qui fait que son bac, elle l'a passé à la vie de 19 ans.
D'accord. Voilà. Et donc, elle a rencontré ce skinhead. Alors, les skinheads, oui. C'est
Alors, oui, c'est un
peu.
Ça,
alors, oui, alors, mais c'est un peu. Il y a eu des dérives. C'était à l'origine, c'était des classes un peu. C'était des jeunes issus des classes populaires avec une influence un peu ouvrière, oui. Musicale, très oui. Très rock,
oui, oui.
Avec un look un peu codifié, un crâne rasé, des bretelles, des jeans. Et puis après, il y a eu des dérives quand même.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il y avait des skinheads quasiment néo-nazis ou suprémacistes. C'est-à-dire
voilà.
Avec
lui,
une connotation violente et raciste.
Et
c'était
voilà.
Ça.
Et voilà. Et c'était
oui.
Le cas. Et on l'a
mais comment vous expliquez qu'elle a fait cette rencontre? Pourquoi cette rencontre?
Qu'est-ce que,
elle voulait à ce point être en rupture avec son milieu?
Non, pas du tout. Mais elle était folle de Jeanne Masse. Est-ce que vous voyez Jeanne Masse, sa chanteuse?
Bien sûr, oui, oui, bien sûr.
Que j'aime beaucoup.
Ben oui,
que
oui.
J'aime beaucoup. Qui a beaucoup changé. Elle n'est plus. Mais à l'époque.
Oui,
que ma fille était en admiration devant cette chanteuse, elle a voulu s'initier à elle dans son look. Elle ressemblait à Jeanne Masse.
D'accord.
La coiffure, l'habillement.
En rouge et noir.
Très noir. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Oui, oui, très bien, très bien. Bah oui.
D'ailleurs, j'avais un petit peu des problèmes au lycée. Parce qu'il ne supportait pas beaucoup. Hein. Mais bon, elle se sentait bien comme ça.
Mais alors pourquoi moi, justement, ça ne ressemblait pas à la jeune fille que vous aviez élevée ou la jeune fille du milieu? C'est pour ça que je vous demande comment vous expliquez ça. Elle voulait à ce point se démarquer de son milieu?
C'était non.
Elle voulait appartenir à un groupe? Elle avait envie d'appartenir à une...
Pas du tout. Elle s'identifiait à cette chanteuse.
D'accord.
À l'époque de Jeanne Masse, qui était très noire, je ne sais pas si...
Oui, oui, très bien, bien sûr.
Mmh. Ah, et puis elle chantait bien. C'était une belle chanteuse qui est encore. Non, c'était son image de Jeanne Masse. Voilà. Donc, comme elle s'habillait comme ça pour aller au lycée, qu'ils n'étaient pas trop d'accord, mais je pouvais rien faire contre ça. Elle avait porté un corset pendant presque 10 ans. Elle voulait vivre. Elle voulait vivre sa vie de jeune femme.
Elle voulait s'affirmer, c'était ça.
Donc, sa elle a fait la rencontre d'un skinhead.
Et alors, elle est partie surtout avec lui. Il a réussi à faire en sorte qu'elle parte. Et donc, après le bac, elle a tout arrêté.
Elle a passé son bac. Elle n'a pas réussi tout de suite. Il a fallu qu'elle aille au repêchage. Mmh. Et quand elle est revenue, elle m'a dit, maman, je veux partir. Bon, ce garçon, je l'avais vu, il était de temps en temps à la maison, il avait un look, des idées, de skinhead, hein, franchement. Mmh. Et puis, un jour, elle nous a annoncé, elle a dit, je vais partir avec lui. J'ai essayé de la raisonner, rien n'est fait.
Et son frère et son père n'ont pas pu la raisonner non plus.
Non plus, mon fils était encore trop jeune à l'époque.
Mon mari est monté avec
le jeune homme pour lui faire comprendre que notre fille, elle n'avait pas son esprit, qu'elle n'allait pas même rester avec lui, qui se faisait des idées, que notre fille, elle avait été une éducation, elle avait reçu une éducation qui n'avait rien à voir avec son look. Mmh. Et puis, eh bien, figurez-vous que ma fille, elle a passé son bac, elle est revenue, elle était au rattrapage, elle l'a eu, et le lendemain, elle est partie de la maison.
C'est fou.
Alors, oui, c'est fou. Alors, le long de la route, elle s'apercevait qu'elle faisait une bêtise, elle m'appelait, elle me disait, maman, je suis à tel endroit, viens me chercher. J'ai dit, bien sûr, dis-moi où tu es, je vais venir te chercher. Elle s'aperçut de faire une bêtise en partant comme ça, parce qu'on était très fusionnés. Très fusionnelle.
Et alors, vous êtes venue la chercher ?
Et après, elle m'a rappelé en me disant « Non, non, maman, je pars, je veux faire une expérience. » Et elle est allée dans le midi avec ce garçon. Elle est partie dans le midi, elle est partie que 2 ans.
Pendant deux ans, vous n'avez pas eu de ses nouvelles ou vous aviez de ses nouvelles ?
Si. Elle m'a donné de ses nouvelles.
Elle vous donnait de ses nouvelles, mais elle vivait de quoi ? Oui. Elle était quoi dans une...
Elle a fait de tout, hein, elle a fait de tout. Elle a travaillé dans des supermarchés, des choses comme ça. Et puis elle s'est rendue compte...
Mais elle aimait ce garçon, il y avait de l'amour ?
Oui, il y avait de l'amour.
Et lui aussi ?
Oui, il paraissait amoureux, oui. Et puis au bout de 2 ans, elle m'a dit, maman, on rentre et on va se marier. Alors, elle s'est mariée.
Ah oui,
elle est revenue. On a été obligé d'accepter.
Et vous avez donc reconnu, vous avez rencontré la famille de ce garçon ?
Bien sûr. On a tout s'est bien passé. Ils se sont mariés, ils voulaient. Et là, ils sont restés ici. Et elle est rentrée dans le métier qu'elle avait appris. Elle est rentrée dans un laboratoire pour faire le métier qu'elle avait appris.
Le métier de quoi ? Elle était chercheuse ? Elle était quoi ?
Elle était, oui, chercheuse dans un laboratoire qui est ici.
Et lui, qu'est-ce qu'il faisait ?
Et lui, il travaillait dans à la radiotechnique, il était agent de sécurité.
Il est resté toujours avec ce mouvement de skinhead,
oui,
ou il avait changé ?
Oui, il avait changé parce que agent de sécurité, c'était, il fallait quand même...
Avoir un look, imposé, oui. Et ils n'ont pas eu d'enfants ? Ou ils ont eu des enfants ?
Au début, ils n'ont pas pu avoir d'enfants. Et pendant 10 ans, ils ont fait plein d'examens, ils sont à l'appareil partout, et ils ont fini par adopter une petite fille qui est née sous X. Voilà.
Ils ont réussi à adopter, d'accord, très bien.
Voilà.
Bon, alors l'histoire, c'est plutôt... il y a plutôt une histoire, un peu arrangée sur le tas.
Voilà. Ils ont acheté une maison, il a fallu pour adopter...
Ils sont rentrés un peu dans le rang, comme on dit.
Ils sont rentrés dans le rang. Et alors que ma petite fille avait 3 ans, la petite fille qu'ils avaient adoptée, mais je l'ai considérée comme ma petite fille.
Bah, évidemment, oui, ouais, bien sûr.
Ma fille arrive un jour et elle me dit, maman, je suis divorcée. J'ai fait quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Ouais. Je demande le divorce. Je ne veux plus vivre avec Manu. Il n'est vraiment pas normal. Oh ! J'ai dit, Sophie. Et Tiffany, qu'est-ce qu'elle va devenir ? Eh bien, elle m'a dit, maman, on se partagera. Oh, c'était pour moi un drame.
Pourquoi c'était un drame pour vous? Pourquoi c'était un drame?
Eh bien, c'était un drame parce qu'ils avaient adopté une petite fille.
Oui, bah, elle gardait ses deux parents, même s'ils divorçaient.
Oui,
ça aurait été, même si elle l'avait pas. Oui, mais même si elle avait, mais même si elle n'avait pas été adoptée, si elle, ça avait été un enfant naturel, de toute façon, de la même manière,
mais
le divorce.
Le drame qu'il y a eu, c'est que mon gendre, il est venu me voir à la maison. Il m'a dit, voilà, vous gardez très souvent votre petite fille. Oui, oui, je la garde souvent. Eh bien, puisque c'est votre fille qui demande le divorce, vous ne la verrez plus.
Bah, ça, il ne peut pas vous empêcher.
Eh bien oui, on a fait des démarches.
Non, mais de toute façon, c'est votre fille. C'est votre fille. Au moment où votre fille a la résidence de l'enfant, elle vous l'emmène quand elle veut. Lui, il ne peut rien
faire.
Mais
il a fallu passer au tribunal pour avoir la garde de notre petite fille. C'était très douloureux.
Quand vous parlez de la garde, pourquoi vous parlez de la garde par votre fille, vous voulez dire?
Non, ma fille, elle l'avait.
Bah oui.
Ma fille l'avait parce que, non, c'est-à-dire ce qui s'est passé, ça a été très compliqué, parce que ma fille, en fait, n'en voulait plus, la petite.
Ah, d'accord.
Elle n'en voulait plus.
Ah oui, voilà. D'accord, donc là on passe... Ah, oui. Le divorce l'a amené également à rejeter la petite?
Voilà. Voilà.
Comment vous l'expliquez? Comment vous expliquez ça?
Eh bien, elle m'a dit, donc elle m'a annoncé son divorce, et elle m'a dit, tu sais, maman, qui s'aime, ça ne sera jamais ma petite fille. Ce n'est pas mon enfant.
Parce que c'est un enfant qu'elle ne voulait pas. C'est son mari qui avait souhaité d'adopter l'enfant.
C'était une petite fille qui était sous X, tous les deux. C'était tous les deux.
C'était tous les deux, pourtant, au départ. Ce n'est pas un choix que son mari lui a imposé.
Non.
Et alors, pourquoi ce rejet? Elle a l'impression que elle était jalouse de cette petite fille, de l'amour que son mari avait sur cette petite fille.
Mais vous savez qu'avant son divorce, elle me l'amenait très souvent. Et elle me disait, maman, surtout, tu dis rien. Il s'appelait Manuel. Elle me disait, tu dis rien à Manu. Mais je ne le sais pas. Je ne m'habitue pas. C'était moi qui l'avais.
Elle n'avait pas encore fait le deuil de ne pas pouvoir être maman naturellement.
Voilà. Voilà.
Et donc cette petite fille était un ersatz d'enfant qu'elle aurait souhaité avoir. C'était un substitut qu'elle n'acceptait pas finalement.
Oui, elle n'acceptait pas. Donc c'était lui.
Ah oui, c'est triste. C'est très triste.
C'était lui qui la gardait.
Ah. Et donc dans le divorce, elle a laissé la garde de l'enfant à son mari.
Voilà.
Et elle n'avait même pas de droit de visite ou d'hébergement. Elle n'a pas demandé.
Non.
Et la petite avait quel âge? 3 ans?
Elle avait 3 ans quand ils ont divorcé.
Mais ça a dû être effroyable pour la petite.
Pour la, je ne me rendais pas trop compte, mais disons que nous, on l'avait. C'est-à-dire que moi, j'ai réussi à l'avoir parce que je suis allée au tribunal pour avoir la garde de ma petite fille.
Bon, enfin, la garde, vous avez eu la garde ou un droit de visite et d'hébergement?
Mais il s'est passé une chose, j'ai fait une bêtise, si vous voulez. C'est-à-dire que je suis allée un jour à la vieille école, et puis j'ai voulu parler à ma petite fille. Il l'a pris dans ses bras, il m'a dit c'est pas votre petite fille. Il y avait plein de monde autour de nous. Je fais pardon, Manu, répète ce que tu viens de me dire. C'est pas votre petite fille. Bien sûr qu'il y a eu des témoins. J'ai porté plainte, j'ai pris un avocat, et quand on est passé au tribunal, le juge, il a dit, monsieur Georges, vous allez répéter devant la cour ce que vous avez dit à votre belle-mère. J'ai dit à ma belle-mère que c'était pas sa petite fille. Enfin, il a fallu qu'il lui fasse parler très fort. Hein. Pardon? Vous avez dit à votre belle-mère que ce n'était pas sa petite fille. Alors, monsieur, si vous dites à une grand-mère qui... J'avais mis des affiches partout dans ma ville. Parce qu'elle m'appelait Mamie Poule, j'avais des poules. Et j'avais mis des affiches, et j'avais, le jour de l'anniversaire de ma petite fille, j'ai mis des affiches toutes les... On nous connaissait bien dans notre ville. Les commerçants acceptaient. Tiffaine, bon anniversaire. Ton papy et sa Mamie Poule. Et il y avait bien sûr des gens qui ont témoigné qui ont vu ça. Et devant le juge, le juge, il a dit, monsieur Georget, si vous dites à cette grand-mère qui s'est battue, j'ai des témoignages, donc, c'est qu'on ne considérait pas que c'est votre fille. Et c'est votre femme qui aura la garde de votre fille. Voilà comment ça s'est. Et monsieur et madame Uriel, nous, auront la garde de leur petite fille quand ils voudront. Voilà comment ça s'est. Alors, ça a
et
été,
donc, la décision rendue, qu'est-ce qu'elle a prévu? Alors, elle a prévu que vous aviez un droit de visite et d'hébergement de la petite?
Voilà, voilà.
C'est-à-dire que la petite voilà. vit chez son père, mais vous avez le droit, quoi, à un week-end par mois?
Oui, c'était plus souvent que ça. Hein. On l'avait souvent. On l'avait en vacances, on l'avait... Oui.
D'accord. Et votre fille, elle, a vraiment cessé de la voir?
Non, elle a continué, il se la partageait.
Ah, votre fille est revenue avec de meilleurs sentiments et elle a même été obligée.
Hein. Elle a été obligée. Hein. Dans le tribunal, ils ont obligé que ce soit les deux. Et puis à la suite de ça, bien, ma fille est tombée enceinte, naturellement. Comme quoi vous
D'un autre homme
qui travaillait avec elle.
D'accord. Voilà. Et donc aujourd'hui, elle est maman d'un autre enfant.
D'un autre enfant.
Qui est un petit garçon, une petite fille?
Une petite fille.
Qui est donc la petite sœur de votre petite fille.
Voilà. Voilà.
Et donc les deux petites filles cohabitent ensemble maintenant?
Oui, elles s'entendaient très bien.
Et votre petite fille, elle sait qu'elle a été adoptée, la première?
Oui, elle le sait, ils lui ont dit quand ils ont décidé de divorcer, ils m'ont dit.
Comment elle a vécu tout ça? Comment elle a vécu la rupture, la violence, les mois d'abandon de votre fille? Comment elle a vécu tout ça?
Eh bien, écoutez, elle l'a bien vécu parce que on lui a dit qu'elle avait été abandonnée, tout ça, et à l'époque, elle pouvait pas retrouver l'intéressait même pas. Non. Ça l'intéressait pas même de faire des recherches. Ça n'intéresse pas. Voilà.
Mais comment elle a vécu le fait que sa maman l'abandonne à un moment donné, ne veulent plus être avec elle? Comment elle a vécu ça?
Ben, c'est-à-dire qu'elle aimait beaucoup son papa, elle nous aimait beaucoup. Je pense qu'elle avait suffisamment d'amour autour d'elle. Hein, et puis sa maman la gardait quand même. Hein. Sa maman la gardait.
Et aujourd'hui, ses sentiments de la maman, ils sont revenus? Votre fille a de nouveau des sentiments pour sa fille?
C'est-à-dire que, bon, elle a eu ses deux petites filles. Quand elle a eu sa deuxième petite fille, elle est venue me trouver. Elle m'a dit, maman, voilà, j'ai un bébé, j'en aurai pas d'autre, et je vais te demander de t'arrêter de travailler pour garder mes filles. Voilà.
La dernière fille?
Les deux. Parce que l'autre, elle allait à l'école quand même, hein.
Mais elle, son amour pour la grande est revenu. Elle a de nouveau développé des sentiments pour la grande.
Oui, quand même. Oui, parce que les deux petites c'était devenu des vraies sœurs. Des vraies sœurs.
Formidable.
Des vraies sœurs.
Et dans tout cela, Perrine, vous avez laissé de côté la perte cruelle de votre fils.
Oui.
Quel âge il avait, votre fils, quand il a malheureusement...
Il avait 51 ans. Il allait les avoir, 51 ans. Ah oui.
Il a eu quoi?
Il est né en 70, il est mort en 22. Oui.
En 2022? Il est mort d'une maladie, j'imagine?
Eh bien, écoutez, on n'a pas trop su. C'était un peu compliqué, il a fait une crise cardiaque. On a voulu savoir, mais on n'a pas eu le droit d'avoir une autopsie. Il avait eu les deux vaccins, vous savez, les vaccins qu'on a eu pour le Covid.
Oui.
Mon mari était avec lui quand il a fallu faire le troisième rappel. Mon fils ne voulait pas le faire. Mon mari lui a dit, il a insisté, il a dit fais-le. Et une semaine après, mon fils a eu un arrêt cardiaque.
Mmh.
Ouais.
Il était marié, il avait des enfants?
Et oui. Il s'est pas marié, il avait une compagne, ils avaient trois enfants.
Donc vous êtes également grand-mère de trois autres enfants que vous voyez?
Oui. Eh bien, je vais vous expliquer que je ne les vois pas. parce que la compagne à mon mari, elle a trouvé un autre compagnon.
Ah, la compagne de votre fils, pardon, a trouvé quelqu'un d'autre.
De mon fils.
Oui, a trouvé quelqu'un d'autre. Et alors, qu'est-ce qui l'empêche que de voir ses petits-enfants? Qu'est-ce qui vous il ne veut plus du tout que vous ayez de contact avec les enfants? Elle ne veut plus, pardon?
Non, parce que je les appelle, ils sont loin de nous, hein, ils sont du côté de Bordeaux. Nous, on est à côté de la région parisienne, mais ils avaient plus le même amour entre eux. Hein. Il n'y avait plus le même amour entre eux. Mon fils, il m'avait dit Caroline n'est pas sérieux. Il trouvait que sa femme, enfin, ils n'étaient pas mariés, mais il me disait Caroline, il s'est contrarié. Il me disait Caroline, c'était lui qui s'occupait le plus des enfants. C'était lui. Il les emmenait à l'école, il jouait avec eux.
Mais du coup, aujourd'hui, alors, vous avez retrouvé, on va dire, votre statut de maman et de grand-mère avec votre fille. Vous avez hélas perdu votre fils en 2022. Mais oui. vous avez aussi perdu quasiment le contact avec vos trois autres petits-enfants.
Oui. Et ma fille, ben, je sais où elle se trouve parce que j'ai pris un...
Votre belle-fille, vous voulez dire?
Non, ma fille. Ma fille, j'ai pris un détective privé.
Pourquoi votre fille, vous disiez que vous aviez retrouvé votre fille et qu'elle vous demandait de garder les enfants?
Oui, je les ai gardés, mais il y a eu une petite dispute. Il y a eu une dispute avec mon mari parce que nous étions à l'âge de prendre notre retraite. On avait décidé d'acheter un camping-car, de voyager.
Ah, il y a encore un nouveau rebondissement, je n'avais pas suivi.
Il y a eu un nouveau rebondissement. Ma fille voulait garder nos clés de maison. Quand on partait, ben on lui laissait, puisqu'elle les voulait. Et puis un jour, je ne sais pas ce qu'il y a pris, elle est venue à la maison, puis elle a dit « Je vous rends vos clés », mais ça, elle était encore dans la région, « Je vous rends vos clés parce que moi, j'ai pu demander à vos voisins. Je ne peux plus... » Mais on ne voulait pas, C'était elle qui nous avait proposé de venir récupérer notre courrier. Elle n'avait rien à faire dans notre maison, juste se prendre le courrier. Et puis il y a eu une petite dispute avec mon mari, un petit accrochage, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Ben oui, j'avais élevé quand même ses deux filles, mon mari, ça l'a contrarié. Il lui a dit, mais attends, tu sais ce que tu fais là? On a élevé tes deux filles et tu nous envoies promener. Ils se sont accrochés et puis...
Alors, elle a pris ses clics et ses claques, et donc ses deux enfants sous le bras.
Voilà, vous avez compris.
Elle ne vous a plus donné de nouvelles. Et comment elle s'est même débrouillée pour les faire garder, ses enfants?
Eh bien, ils étaient grandes, hein, quand même. Ils étaient grandes. Il y en
quel âge elles avaient? Alors, la grande, elle avait quel âge?
Il y en a une qui... La petite, elle avait 12 ans.
Ah oui.
Et la grande, ils ont 6 ans d'écart, elle avait 18 ans.
Ah oui, donc c'est à 12 ans et 18 ans que vous avez perdu le contact avec votre fille et vos petites filles.
Voilà.
Et vos petites filles, celles qui avaient 18 ans, elle a pas pu vous retrouver? Elle n'a pas cherché à vous retrouver?
Ben non.
Elle avait vos coordonnées, votre téléphone, votre adresse. Elle n'a pas cherché à renouer contact avec vous?
Non.
Alors que vous disiez vous-même, vous l'aviez quasiment élevée.
Ah oui. Même,
et vous étiez très attachée à elle et proche d'elle?
Oui.
Mais et donc, ça fait combien de temps que vous n'avez pas de nouvelles de votre fille?
Eh bien, ma fille, ça fait une dizaine d'années maintenant.
Ça fait dix ans, d'accord. Donc c'est pour ça que vous. Et quand votre, donc aujourd'hui, votre petite fille, elle aurait 28 ans?
Ah oui, voilà.
Ah oui.
Il y en a une qui est née en 2003, une qui est née en 2003 et une qui est née en 96, celle qui était adoptée.
Oui, c'est ça, donc 28 ans et 22 ans. Et donc vos deux petites filles depuis 10 ans, vous n'avez plus de nouvelles d'elles non plus?
Non.
Et votre fille, donc pour essayer de la retrouver, parce que vous saviez où elle habitait au départ?
Elle habitait bien sûr ici, oui, elle était ici.
Mais elle a déménagé, elle a pris un...
Oui.
Et donc vous avez pris un détective, vous disiez?
Oui, parce que je voulais savoir, parce que j'ai... Il y a un an, on m'a détecté un cancer du sein. Mmh. Et donc, je ne veux pas me faire opérer, mais il y a d'autres moyens. Je suis soignée par traitement. Mmh. Et c'est des épreuves là, que j'ai eues.
Je pense que le choc de votre fils, et puis aujourd'hui, le départ de votre fille, ce sont des chocs qui peuvent,
hélas... Je ne comprends pas toutes ces épreuves qui me sont arrivées alors qu'on a eu 15 ans de bonheur.
Bah, plus que 15 ans de bonheur quand même. Parce
même un peu plus. Non, mais je veux dire avec nos enfants. Avec nos enfants. Parce qu'après, il y a eu l'adolescence.
Mais votre fille, à cause de cette dispute de boîte aux lettres ou je ne sais quoi, à cause de cette bêtise, depuis 10 ans, elle vous laisse sans nouvelles.
Oui. Oui. Elle a rendu, elle est venue. Elle nous a... elle est venue. Et puis, elle nous a dit, je vous rends vos clés. Moi, ça me casse les pieds de... Mais... c'est toi qui nous as demandé...
Elle s'est jamais entendue avec votre mari ou ça se passait bien avec votre mari?
Moi, ça se passait bien, ça se passait bien. Mon mari, ça l'a contrarié parce que c'est des enfants qui ont été gâtés, ils ont...
Et la perte de son frère, ça a été... parce que vous avez perdu votre fils, mais vous parliez déjà plus avec votre fille quand vous avez perdu votre fils?
Oui.
Et donc, elle n'est pas venue aux obsèques?
Absolument pas, non. Elle était dans le midi, Non,
elle n'est pas restée en relation non plus avec la compagne de votre fils, de ses enfants. Elle n'est pas restée en relation avec eux.
Elle était en contact avec mon fils.
Elle a toujours gardé de bonnes relations.
Oui. Elle avait toujours des contacts avec mon fils. Si. Mon fils me parlait. Si. Il me disait, tu sais, maman, et elle a même quitté son compagnon avec qui elle a eu sa petite fille. Ils se sont séparés, je ne sais pas pour quelle raison.
Elle est dure quand même, votre fille, non, j'ai l'impression.
Oui, même que mon fils, il m'a dit, tu sais, maman, j'ai eu Sophie au téléphone et elle lui a dit, les parents ne seraient pas contents s'ils savaient avec qui je vivais maintenant.
Avec qui je vivais.
Ah ouais.
C'est aussi pour ne pas avoir à assumer le choix de sa nouvelle vie qu'elle a mis des distances aussi avec vous. Périne, si votre fille, par extraordinaire, écoutait cette émission ce soir, si elle tombait sur Europe 1 ce soir et qu'elle a reconnu votre voix, qu'elle s'est reconnue dans ce que vous nous avez raconté, qu'est-ce que vous voudriez lui dire, lui dire comme message?
Eh bien, je voudrais lui dire que j'ai traversé des épreuves terribles, elle a porté un corset que je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup grondé parce que elle supportait plus par moment de porter son corset. C'était très dur pour elle. Et quelquefois, je l'empêchais de sortir, elle voulait pas le mettre. Et quelquefois, à l'entrée de sa chambre, je lui disais, Sophie, si tu ne mets pas ton corset alors que c'est ta vie qui est en jeu, je n'irai pas à mon travail, je ne te laisserai pas sortir. Vous voyez, j'étais dure un petit peu avec elle parce que je voulais qu'elle guérisse. On allait trois fois par semaine, je travaillais à mi-temps parce qu'elle allait trois fois par semaine chez le kiné et je tenais à l'accompagner. J'ai tout fait pour...
Qu'est-ce que vous voudriez lui dire là? Vous dites que vous traversez une période difficile, vous avez un cancer. Vous avez besoin d'elle, vous avez besoin de lui parler, vous n'avez plus qu'elle et vos petits-enfants, vous ne voyez plus vos autres petits-enfants, votre fils, hélas, n'est plus de ce monde. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire à votre fille, à Sophie?
Eh bien, qu'on a été heureux et que que je l'aime beaucoup, que je voulais que son bonheur. Je sais qu'elle avait un caractère qui n'était pas facile, mais elle avait peut-être une raison, elle a porté un corset, c'était très dur, vous savez, c'est un corset, c'était pas les corsets qu'ils font maintenant, c'était un corset, il était tout en métal, il tenait dessous le cou. Jusque dans le bas des fesses.
Est-ce que vous pensez que c'est cette épreuve de la vie quand elle était jeune et cette obligation de porter ce corset qu'il a durci, qu'il a...
Oui. Ça l'a beaucoup durci, parce que quand on allait à Garches, ils lui ont mis son corset, ils nous ont regardé, ils nous ont dit, c'est la première petite fille qui ne pleure pas. Mais...
elle est dure à la douleur. Et donc, vous pensez qu'elle est aussi un peu dure au sentiment ?
Oui, je pense. Je pense.
Ce qui est étonnant quand même, Perrine, c'est que vos petites filles, avec qui vous avez partagé tant d'années, tant de bonheur, n'essayent pas
de... On les a emmenées avec nous pendant 10 ans.
Vous les avez pu les retrouver avec le détective privé ?
Mes petites filles.
Votre petite fille et votre fille, d'ailleurs.
J'ai retrouvé ma fille. Je suppose que c'est... Comment ça s'appelle ? Ses filles sont près d'elle. Hein.
Et vous l'avez retrouvée où, alors, votre fille, Sophie ?
Elle est à côté de... du côté de Aix-en-Provence.
Et elle travaille ? Quelle est sa vie ? Et elle vit avec qui ? Vous savez avec qui elle vit, du coup ?
Je ne sais pas. Le détective
n'a pas pu vous donner ses précisions, d'accord ?
Non, il aurait fallu, c'est quand même coûteux. Hein, c'est...
Oui. Et alors, il vous a donné le moyen de la contacter ?
Oui, il m'a donné son numéro de téléphone. Donc,
quand même. Et alors, vous avez
appelé ? J'ai trouvé son compte Facebook et je lui ai mis sur son compte Facebook ce que je traversais.
Vous avez eu de réponse ? Pas de réponse ?
Non, c'est pas une réponse.
Et vous l'avez appelé sur son portable ?
Non, je n'ai pas essayé de l'appeler.
Et lui envoyer un message sur le portable, un SMS ?
Oui, je ne l'ai pas fait.
Pourquoi vous ne le faites pas ?
Je pourrais le faire, oui. Je ne sais pas.
Dites-lui, ma fille, je traverse une période difficile, les années ont passé, je n'ai toujours pas compris les raisons pour lesquelles...
Oui, c'est son numéro de téléphone,
On s'est éloigné, mais aujourd'hui le chemin se rétrécit, j'aurais envie de parler, de renouer avec toi, je ne te veux pas de mal, je resterai en distance et à respect, mais en moins, donne-moi de tes nouvelles et accepte que l'on puisse se revoir, peut-être lui envoyer un message comme ça, Perrine.
Ouais.
Hein ?
Oui.
Faites-le, puisque vous avez été au bout de l'exercice, vous avez son téléphone, envoyez-lui un message avec respect.
Je pourrais lui faire ça, j'hésitais justement, parce que je lui ai mis sur son compte Facebook, parce que j'ai trouvé son compte Facebook, d'ailleurs je suis très surprise. Parce que sur son compte Facebook, elle met une photo où elle est avec elle et son frère quand ils étaient tout petits.
Mais oui, ça veut dire qu'elle n'a pas perdu. Peut-être qu'elle a honte maintenant. Peut-être que votre message lui ferait du bien. Faites-le, on a quelques messages pour vous. Bernadette nous écrit au 739-21. Elle dit, Perrine ne méritait pas de ne plus voir sa fille. Surtout après le chèque de son fils. Et puis, un autre témoin. Je partage la peine de cette femme pour son fils disparu. J'ai moi-même perdu mon fils de 26 ans. Je comprends sa douleur. Les petits-enfants sont de vraies thérapies à cette douleur. Courage et bonheur à cette femme, donc à vous Perrine. L'émission va s'achever, Perrine, on ne peut malheureusement pas poursuivre notre échange, Perrine, envoyez votre fille avec la photo qu'elle a mise sur Facebook, c'est peut-être une manière de renouer un peu avec ses souvenirs, avec sa vie. Ne lui parlez pas du corset, ne lui parlez pas de tout ça, dites simplement qu'elle vous manque, dites-lui que le chemin se rétrécit, qu'aujourd'hui vous traversez à votre tour une période compliquée.